Vous êtes en compagnie de Rouquette Abdrahmane pour le journal en français. Fidèles auditeurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. Après 48 heures à Asmaka, ville nigérienne frontalière avec l'Algérie, le président de la CNDH a animé à Agadez un point de presse sur la situation des refoulés et autres migrants de cette ville. Les détails à suivre dans ce journal. La saison des pluies rime au Niger avec des inondations et autres dégâts. Le ministère de l'Action humanitaire a pris des dispositions cette année pour éviter des catastrophes. La partie magazine de cette édition nous conduira à Konni où un collectif de femmes produit du pesticide à partir des fruits de l'arbre de Nîmes. Mardi 18 juillet 2023, bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons avec cette brève. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP du Niger a infligé des sanctions financières aux quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays. Celtel Niger, Airtel, Zamani Telecom, Move Africa Niger et Niger Telecom pour des manquements persistants de la qualité des services offerts. Les défaillances concernent la couverture des réseaux, la qualité des appels, l'acheminement des appels d'urgence et la qualité des services SMS et Internet. Au total, les sanctions totalisent plus de 4 milliards de francs CFA. Ces informations ont été rendues publiques lors d'une conférence de presse tenue hier lundi 17 juillet à Niamey. Suite de ce journal, fin vendredi 14 juillet de la visite de travail de 3 jours entreprise par une mission de la Commission nationale des droits humains dans la région d'Agadez. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du contrôle de la situation des migrants refoulés de l'Algérie à Asmaka, suivant le président de la CNDH, Mati El-Hadj Moussa, au micro d'Anissé Karim.
Le centre de migration de l'OIM à notre passage à Asamaka comptait 1456 migrants de 12 nationalités différentes. L'Algérie, d'où ils ont été refoulés dans des conditions qui ne respectent pas forcément la dignité humaine, à une frontière avec le Mali. Nous continuons de ne pas comprendre comment des migrants maliens et autres ouest-africains sont déversés à la lisière de notre frontière et sont laissés à eux-mêmes et à la charge du Niger. La détresse humaine dans laquelle donc ils sont déversés nécessite des mesures d'urgence. Ils sont dépouillés de tout. Ils viennent simplement en haillons et déversés à l'endroit qu'on appelle point zéro, où il n'y a que du sable et des cailloux. Certains, même avant d'être secourus, nous avons appris qu'ils rendent l'âme de faim et de soif. Et le défi, c'est par rapport au nombre de plus en plus grandissant de ces refoulés. Nous allons essayer de voir avec les autorités d'Algérie, voir comment nous allons juguler ce flux et comment nous allons mettre plus de respect de la condition humaine au niveau de ces opérations de refoulement des migrants.
Parlons d'insécurité. Dans la semaine du 3 juillet, ils sont des centaines d'hommes, femmes et enfants dans la commune de Ouregaladio à prendre la route sommée de quitter leur village par les groupes armés. Au total, 14 villages se trouvant de part et d'autre du Gorubi ont été la cible des menaces. Environ 11 000 personnes ont trouvé refuge dans le chef-lieu de cette commune, selon un élu local de la commune joint au téléphone. 85 tonnes de vivres ont été mises à la disposition des populations déplacées par les autorités. Cela fait 3 jours que les déplacés du village de Dewa rejoignent leur village d'origine. Ils ont décidé de retourner pour continuer leurs activités agricoles comme auparavant. Le président du conseil régional de Difa lance un appel au gouvernement et aux ONG pour soutenir ces personnes. Écoutons Koro Jidala, président du conseil régional de Difa, au micro de Guidi Abdrahmane.
Ramener les réfugiés dans leur localité, c'est une priorité du président de la République. Nous avons déjà organisé une première phase pour ceux qui désirent retourner dans leur localité d'origine. Aujourd'hui, les ressortissants du village de Dewa disent qu'ils veulent retourner chez eux pour pratiquer l'agriculture, mais ils n'ont pas les moyens pour organiser ce retour eux-mêmes. J'ai répondu que pour ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour les populations et nous avons immédiatement pris des mesures pour les ramenés. Pour le moment, je ne vais pas dire le nombre, mais ils sont nombreux, ceux qui sont partis. Ces personnes doivent bénéficier de l'appui du gouvernement et des partenaires afin qu'ils puissent continuer leur activité agricole.
Autre aspect de ce journal, dans le cadre du recrutement des militaires pour le compte de l'armée nigérienne, le département de Bilma a eu un quota de 50 nouvelles recrues. Dimanche dernier a eu lieu dans la commune de Bilma ce recrutement des jeunes. Ainsi, 10 ont été retenus. Les prochaines étapes seront Dirkou et Shirfa. Mama Lawali Ibro, préfet de Bilma, au micro de Kiari Chegou.
L'année passée, le pays a recruté 5 000 jeunes. Donc, c'est la même chose, c'est le même nombre qui est reconduit sur le plan national. L'année passée, on a recruté 50 jeunes sur le plan national et au niveau du département de développement. Donc, la même chose cette année, il y a 50 jeunes qui seront recrutés en 4 étapes. Il y a d'abord la première étape qui a eu lieu à Fache pour recruter 10 jeunes. La même chose, donc, hier, c'était au retour de Bilma. Donc, il y avait un engouement de jeunes. Donc, c'est pour recruter 10 jeunes aussi, dont une première. Donc, deux matins. On a pu avoir vraiment des 10 jeunes, 9 garçons et une fille. Et aujourd'hui, ils vont retourner à Dirkou pour se reposer, pour continuer directement sur Shirfa. Et là-bas, ils auront encore à recruter 10 jeunes, équipés 30 jeunes. Et maintenant, ils viennent à Dirkou pour recruter 20 jeunes. Donc, l'ensemble, donc, pour le département de déploiement, on aura 50 jeunes qui seront recrutés pour le compte du pays.
La saison des pluies à peine installée au Niger cette année occasionne déjà des dégâts. 10 personnes ont perdu la vie tandis que 20 autres sont blessées dans des inondations occasionnées par les pluies enregistrées ces derniers jours au Niger selon l'agence nigérienne de presse. Pour le ministère de l'Action humanitaire, Lawan Magaji, d'ores et déjà des dispositions sont prises pour une réponse rapide. Il est au micro de Mohamed Mama.
Dès le mois d'avril, nous avons eu avec nos partenaires à faire une cartographie des communes à risque du Niger. Et nous sommes en train de prendre les dispositions pour pouvoir leur permettre de se prépositionner dans ces zones-là en cas d'inondation dans les 72 heures pour réagir. Une étude des Nations Unies a démontré qu'en investissant 1 dollar dans la prévention, vous préservez 7 dollars s'il fallait répondre suite à une catastrophe. Et la meilleure préparation, c'est la participation de la population. C'est le respect des textes. Il y a une loi qui interdit même aux maires de donner des zones inondables ou des zones inconstructibles. Mais malheureusement, les gens ne la respectent pas. Et c'est ça qui fait que le plus souvent, dans les grandes villes, nous avons, en cas de saison de pluie, des inondations qui viennent déplacer les gens. Ou alors, quelqu'un qui a des moyens achète un terrain qui est inondable et il fait une construction en dur qui empêche à l'eau de passer et l'eau, elle va donc aller chez ses voisins qui sont pauvres et détruire leur maison. Donc l'appel que je lance aux gens, aux uns et aux autres, c'est vraiment d'être vigilant et au maire de respecter cette loi qui a été réactualisée en 2017.
Il y a 3 ans de cela, on débutait les travaux de la réhabilitation du périmètre irrigué de Birninkoni. Cette année, en cette période d'hivernage, les producteurs du périmètre ont commencé à travailler. Le président de la coopérative El Hadj Moussa explique la situation de l'aménagement au micro de Asmana Moussa Rizika.
Les travaux d'aménagement hydro-agricole ne sont pas encore finis. Nous sommes autorisés à cultiver sur le périmètre, mais tout ne sera effectif que lorsqu'on aura la capacité de fournir de l'eau pour l'ensemble de ces périmètres de manière suffisante. Mais les gens sont en train de cultiver car ils ont beaucoup attendu. Ça fait 3 années qu'ils n'ont pas cultivé. Cette année, ils ont pris du courage. Il y a eu un problème de pluie en début de saison. C'est ce qui a découragé un peu les producteurs. Mais maintenant, partout les activités agricoles se poursuivent normalement.
5 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan des accidents de moto de la commune rurale de Tagazar, département de Balayara, depuis la levée de l'état d'urgence au mois d'avril 2023. Cette situation préoccupe les autorités administratives et de la localité qui lance un cri d'alarme à la jeunesse. Écoutons Ouseni Bonjare, préfet de Balayara, au micro d'Hassan Moumouni.
Nous sommes très fiers parce que quand les motos là ne sont pas en circulation, les activités économiques là sont au rabais. Mais maintenant, alhamdoulilah, vraiment tout marche bien. Les gens se retrouvent dans ça. Mais je lance un cri d'alarme aux structures de la jeunesse de vraiment sensibiliser les jeunes motoristes pour qu'ils n'ont qu'à vraiment respecter la conduite. Une conduite réglementée, ils doivent la respecter. Parce qu'ils sont là en train de faire beaucoup d'accidents. Et les accidents là, c'est des accidents avec mort d'homme. On a eu l'information selon laquelle il y a jusqu'à 5 morts et des blessés graves. Donc ça, vraiment, ça doit nous interpeller, ça doit interpeller toute la jeunesse. Et je lance le cri aux structures de la jeunesse de sensibiliser la jeunesse par rapport à ces actes-là.
Le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamou Souley, a signé vendredi 14 juillet l'arrêté portant liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection du futur sultan de Dosso. Ils sont 17 candidats à voir leur candidature validée par le ministère en vue de l'élection pour remplacer le défunt sultan Maïdenda Seydou Djermakouay, rappelé à Dieu en octobre 2022. Rappelons qu'il était le 25e Djermakouay à partir de 2000 de la province de Dosso qui deviendra en 2010 un sultanat faisant de Maïdenda Seydou le premier sultan. Et puis la partie magazine de cette édition. Un collectif de femmes dénommé Harama à Birninkoni s'est lancé dans la fabrication de pesticides à base des fruits de l'arbre de Nîmes. Une activité qu'elles ont apprise en collaboration avec l'Institut national de la recherche agronomique INRAN de Maradi. Hajia Hadiza Nomou, présidente du collectif, explique le procédé de fabrication du pesticide à base de cet arbre, des fruits de cet arbre. Elle est au micro de Zoéra Boubé.
C'est nous qui produisons le pesticide à base de graines de Nîmes. Pour le produire, on se procure les graines de Nîmes. Il y a les graines de fruits sucées par les chauves-souris et il y a les fruits qui tombent quand ils sont mûrs. C'est les fruits qui sont tombés quand ils sont mûrs qu'on ramasse et on les met dans de l'eau pendant 24 heures. Le matin, on le malaxe jusqu'à séparer la graine de la peau. On le rince pour enlever l'effet collant du sucre du fruit. On fait sécher. Après 2 jours au soleil, c'est sec. On le met à la décortiqueuse pour séparer la graine de la coque. Et celui déjà sucé, on le décortique aussi et ce sont ces graines qu'on pile et tamise jusqu'à obtenir une farine. C'est avec cette farine qu'on produit le pesticide et c'est avec qu'on extrait l'huile de Nîmes.
Comment est-ce que vous faites pour extraire l'huile?
Avec cette farine, on fait bouillir de l'eau. On se procure des petites tasses en inox ou en aluminium. On mesure 3 cuillères de farine et 1 cuillère d'eau chaude. On tient 2 tasses à la main, on mélange la mixture jusqu'à obtenir l'huile de Nîmes. De la même façon qu'on peut pulvériser le produit qu'on a fait avec le Nîmes, on peut le faire avec l'huile. C'est juste la manière de le faire qui diffère.
Est-ce que ce produit est efficace contre les insectes?
C'est très efficace contre les insectes et les ennemis de culture. Quand la jeune pousse commence à fleurir et qu'on la pulvérise avec, la plante ne sera pas attaquée. Mais quand la plante est déjà attaquée, seul Dieu peut y faire quelque chose. Parce que même ce pesticide qu'on fabrique ne tue pas les insectes. C'est que quand ils sentent le goût amer du Nîmes, ils s'éloignent. C'est pourquoi même si tu les vois sur la plante, ils ne peuvent pas la ronger parce que c'est amer. Ils seront affamés finalement, certains insectes meurent et même s'ils survivent, ils ne feront pas du mal à la plante.
Où est-ce que vous avez appris à produire ces pesticides?
Nous avons eu cette innovation du service d'agriculture INRAN de la région de Maradi et travaille avec notre encadreur dans l'élevage des chenilles. Je les ai salués au passage et le patron lui a dit que nous sommes des transformatrices et il lui a dit de nous demander si nous voulons être formés sur la fabrication du pesticide. On a répondu oui. Et après 2 semaines, ils sont venus échanger avec nous et sont repartis. Avant leur retour, on a déjà ramassé les fruits de Nîmes et ils nous ont montré comment faire. 2 mois à peu près leur départ, ils sont revenus et ont déjà trouvé qu'on a ramassé les fruits, transformés en farine et on avait déjà commencé l'utilisation.
Fidèles auditeurs, vous pouvez réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store. C'est tout pour cette édition d'information. Merci pour l'attention. Au revoir. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store.